Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Lamia El-Arrage, adjointe de la maire de Paris en charge de l'accessibilité universelle et des personnes en situation de handicap, porte-parole du Parti Socialiste. Bonsoir.
Bonsoir, Loïc.
Alors, Lamia El-Arrage, à l'occasion du vote interne au Parti Socialiste, vous soutenez Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de Rouen, pour le poste de première secrétaire. Quel enseignement tirez-vous du premier tour des élections internes au Parti Socialiste ?
Écoutez, pour nous, cette élection, elle est représentative de ce que nous ressentons au sein du Parti Socialiste depuis déjà quelques temps, à savoir une dynamique très importante autour de la voie centrale que nous avons portée avec Nicolas Mayer-Rossignol, à savoir la voie de refondation qui appelle à remettre le Parti Socialiste au cœur de la gauche, là où on estime qu'aujourd'hui il est aux marges de la gauche, redonner envie de faire partie ensemble et non pas donner envie aux militants de partir du Parti Socialiste, et enfin changer de cap, d'orientation, de direction à la tête du Parti Socialiste, puisque le constat de jeudi dernier, c'est que la ligne portée par Olivier Faure, qui est l'actuel premier secrétaire du Parti Socialiste, donc la direction sortante, n'a pas obtenu de majorité à l'issue de ce scrutin. Et donc, ce jeudi, tout est possible et nous pensons que nous pouvons et que nous devons d'ailleurs gagner ce jeudi.
Tout est possible. Vous pensez notamment à tous ces adhérents du Parti Socialiste qui n'ont pas voté au premier tour. C'est eux que vous essayez de mobiliser ?
Bah écoutez, déjà, nous cherchons à mobiliser ceux qui se sont exprimés jeudi dernier, puisqu'ils ont fait le choix de mettre Olivier Faure à moins de 50%. Je le rappelle, il est aux alentours de 49%. Donc déjà, si toutes les personnes qui n'ont pas voté pour Olivier Faure se déplacent, nous pensons pouvoir avoir la majorité des suffrages. Et au-delà de ça, nous voyons aussi beaucoup autour de nous de militants, d'adhérents qui ne se sont pas déplacés au premier tour, considérant que le jeu était déjà joué d'avance et que les résultats étaient connus, et qui, sur la base de cet engouement, de cette dynamique que nous avons suscité avec Nicolas Mayer-Rossignol, se déplaceront ce jeudi pour venir voter.
Lamia El-Arrage, quel est le bilan d'Olivier Faure en tant que premier secrétaire ?
Écoutez, le bilan de ces 5 dernières années, je crois que chacun le connaît et le partage. Tout d'abord, c'est un affaiblissement du Parti Socialiste depuis 2017, où aux élections locales, nous avons gagné un certain nombre de collectivités, mais nous en avons aussi perdu d'autres et nous avons perdu en nombre d'élus global. Aux élections européennes, nous ne sommes pas non plus sortis ni en dynamique ni vainqueurs de ce suffrage. Et aux élections présidentielles, nous avons le score que chacun connaît et que je regrette de 1,74% et qui est le signe d'un affaiblissement de notre famille politique. Aux législatives, grâce à l'accord de la NUPES, nous sortons avec 26 députés socialistes auxquels s'ajoutent des apparentés, ce qui nous permet d'avoir un groupe constitué aujourd'hui à l'Assemblée nationale de 30 députés. Mais là aussi, nous ne sommes pas en dynamique, nous ne sommes pas en progression. Et nous considérons avec Refondation que la vocation de notre parti, de notre famille politique, est d'enclencher la dynamique à gauche et de permettre une progression. Au-delà de ça, ce qu'on constate aussi, c'est un affaiblissement sur la scène nationale, puisque si je vous pose la question de ce que pense le Parti Socialiste sur l'école, sur les retraites, sur la santé, il y a évidemment des propositions qui ont été portées notamment par nos parlementaires, mais il n'y a pas de position globale avec un projet global qui nous permette de remporter les suffrages des Françaises et des Français. Et c'est ça que nous souhaitons pouvoir remettre en dynamique, remettre en branle, à savoir un travail collectif, collégial, qui permette à chacun de se projeter, qui redonne aussi envie aux gens de venir, de revenir au Parti Socialiste et non pas d'en partir. Donc c'est sur la base de ces constats-là que nous avons souhaité porter tout d'abord une contribution générale, puis un test d'orientation qui est celui aujourd'hui en dynamique. Je rappelle quand même qu'il y a 3 mois, nous n'existions pas. Et en l'espace de ce laps de temps, nous avons réussi à peser près d'un tiers du Parti Socialiste. Ce n'est pas rien. Et c'est le signe que ce constat est partagé par une majorité de militants aujourd'hui.
Si Olivier Faure est réélu, vous redoutez de voir de nouveaux adhérents du Parti Socialiste quitter le parti ?
Évidemment que nous l'appréhendons, nous le redoutons et je ne vous cache pas aussi que nous sommes inquiets des signaux, des mots qui sont utilisés, puisque le premier secrétaire national, quel qu'il soit d'ailleurs, doit être le garant de l'unité des socialistes. Et nous, ce que nous disons, c'est qu'avant l'union de la gauche, il y a d'abord l'unité des socialistes. Et le premier secrétaire se doit d'être la figure de rassemblement de l'ensemble des socialistes. Or, ce n'est pas le signal qui nous est envoyé. Quand vous avez un premier secrétaire qui, à l'occasion des vœux du Parti socialiste, se permet de dénigrer son concurrent dans le cadre d'une élection interne, nous ne pensons pas que ce soit des signaux d'apaisement qui soient envoyés. Quand vous avez un premier secrétaire qui dit à des adhérents du Parti socialiste s'ils ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à partir, nous pensons que c'est regrettable parce que nous pensons que pour grandir, pour progresser, il faut additionner et non pas soustraire. Donc nous plaidons en faveur d'un rassemblement de l'ensemble des socialistes et aujourd'hui, force est de constater que Nicolas Mayer-Rossignol est le seul à même de garantir l'unité des socialistes, donc le rassemblement de l'ensemble des adhérents, de l'ensemble des militants, de l'ensemble des personnes qui aujourd'hui se revendiquent de la pensée politique que nous portons dans notre famille.
De la même manière, il faut mettre fin à la suspension des candidats socialistes qui se sont présentés lors des dernières législatives face à des candidats de la France insoumise qui étaient investis par l'accord de la NUPES.
Écoutez, je pense que sur ce point-là, les choses sont un tout petit peu plus compliquées. Ce n'est pas tant mettre fin à la suspension que de rendre justice de façon juste. Pardon de cette répétition, mais nous avons des règles, nous avons des statuts. C'est ce qui permet de garantir la vitalité démocratique de notre famille politique. Car contrairement à d'autres formations de gauche, nous, nous avons toujours porté et nous avons à cœur de permettre à chaque militant de s'exprimer lors de votes organisés. Quand vous avez une situation où un certain nombre de candidats, dits dissidents, ont été suspendus, nous nous devons de leur donner une réponse avant ce vote important qui est celui du Congrès. Or, le constat, c'est qu'en l'espace de 7 mois, un certain nombre, 7 pour être exact, ont été réintégrés, là où les autres ont été laissés en suspens. Cette inéquité de traitement ne nous convient pas, et c'est ça que nous disons. Et au-delà de ça, le contexte de cet accord de la NUPES s'est fait dans un moment qui était assez inédit et assez douloureux pour notre famille politique, et nous considérons effectivement que c'est un élément de contexte dont nous devons pouvoir discuter tous ensemble, et là aussi, toujours dans l'objectif de la préservation de l'unité de notre famille politique, nous nous devons de proposer une solution qui permette à chacun de se sentir toujours membre de cette famille politique.
Anne Hidalgo, dont vous êtes proche, a déclaré qu'elle ne voulait pas mettre son destin de femme et de responsable politique entre les mains de Jean-Luc Mélenchon. Ça nous dit quelque chose de ce que sera la ligne du Parti socialiste si vous accédez à la direction ?
Anne Hidalgo s'est exprimée considérant qu'au vu des déclarations de Jean-Luc Mélenchon dans le cas de l'affaire Quatennens, ça ne relevait pas de la ligne politique que nous défendons, notamment sur les questions de féminisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revendiquer cette défense des droits des femmes, cette défense de la parité, cette défense de l'égalité absolue entre les hommes et les femmes, et en même temps considérer qu'un homme qui serait auteur de violences conjugales, qu'il a reconnu par ailleurs, puisse avoir sa place dans les combats que nous souhaitons porter toutes et tous ensemble. C'est ça que dit Anne Hidalgo. Et au-delà de ça, je le dis, nous avons des différences notables sur le mode de fonctionnement. Nous sommes, nous, un parti démocratique où un adhérent égale une voix. Et ça, c'est important aussi de le rappeler. C'est-à-dire que notre mode de fonctionnement est un mode de fonctionnement où chacun a sa place. Ce n'est pas tout à fait celui de la France insoumise. Quant à la position qui est la nôtre sur la question de l'union de la gauche, nous n'avons jamais varié. Nous considérons que l'union de la gauche est un point de départ en vue de la construction d'une alternative politique, là où d'autres considèrent que l'union de la gauche est une finalité, un point d'arrivée qui, quelque part, nous enferme et nous contraint. Est-ce que la gauche a gagné aux dernières élections législatives ? Non, elle a plafonné à 30%. Donc je crois que l'enjeu devant nous demain, c'est comment est-ce que nous sommes en capacité d'être en dynamique pour gagner une élection. Et je rappelle que pour gagner une élection, il faut faire 50% des voix plus une voix.
C'est important que ce congrès du Parti Socialiste se déroule 4 ans avant l'élection présidentielle. 4 ans, c'est le temps nécessaire pour refonder votre parti?
Je ne sais pas si 4 ans suffiront, mais en tout cas, nous ferons en sorte que ces 4 ans permettent à la gauche de revenir en responsabilité lors des prochaines échéances nationales, voire même avant s'il devait y avoir une dissolution à l'Assemblée. Nous pensons que la gauche, pour revenir en responsabilité, doit être unie, évidemment, doit porter un projet commun, et que ce projet commun, il doit être audible et crédible vis-à-vis des électeurs. Et ce travail-là suppose déjà un travail de fond qui soit conséquent, un travail de concertation et de coordination, mais aussi un travail qui dépasse le cadre de l'Union de la gauche telle qu'elle est construite aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, cette construction tourne autour des partis politiques. Sauf que les forces de gauche dans ce pays, elles sont multiples. Vous avez des gens qui sont engagés dans le champ associatif, dans le champ de l'économie sociale et solidaire, dans l'éducation populaire, dans le syndicalisme. Et toutes ces personnes-là, elles font vivre des projets de gauche dans des situations différentes et dans des projets différents, mais qui ont vocation à venir nourrir, alimenter et porter ensemble un projet global qui soit un projet commun et qui puisse parler au plus grand nombre de Françaises et de Français. Donc là aussi, c'est une définition sensiblement différente que nous portons. Cette union de la gauche, évidemment qu'elle se fait sans exclusive, mais elle se fait autour de valeurs, autour de principes et autour d'un certain nombre de convictions qui doivent nous permettre, je le redis, d'être audibles et crédibles. Et aujourd'hui, force est de constater que ce n'est pas le cas.
Autre sujet important cette semaine, Lamia El-Hadj, la réforme des retraites avec une grande journée de mobilisation et de grève ce jeudi. Pourquoi rejetez-vous cette réforme?
Alors, cette réforme, elle est totalement injuste. Cette réforme, elle fait peser sur les travailleurs, elle fait peser sur les plus fragiles, elle fait peser sur les plus précaires les choix politiques et les choix économiques d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il y a un constat qui est clair, qui est issu du rapport du COR, qui dit quoi? Il dit que le régime des retraites cette année est excédentaire de 3,2 milliards d'euros. Il dit que le régime des retraites sera effectivement déficitaire dans les prochaines années de l'ordre de 12 à 15 milliards d'euros. C'est des chiffres qui font peur. Mais 12 à 15 milliards d'euros, je le dis pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est 0,5% du PIB de la France. Donc ce n'est pas grand-chose. Et le rapport du COR, il dit aussi que le régime des retraites reviendra de façon naturelle à l'équilibre aux alentours de 2070. Donc cette réforme, en soi, elle n'a pas raison d'être. Au-delà de ça, il y a des choix politiques différents qui auraient pu être opérés pour accélérer, si je puis dire, ce retour à l'équilibre, pour pas qu'il arrive en 2070, mais qu'il arrive plus tôt. Par exemple, la suppression de la CVAE, qui aujourd'hui représente 18 milliards d'euros en moins dans le budget de l'État, par exemple, elle aurait pu être supprimée. C'était 18 milliards d'euros en plus de revenus qui viendraient compenser ces 12 à 15 milliards d'euros. Par exemple, le fait de faire progresser le taux d'emploi des seniors, qui est aujourd'hui de 55%, de 10 points, donc de l'amener à 65%, ça aurait pu permettre un retour à l'équilibre de notre régime de retraite. Par exemple, de mettre en place une cotisation exceptionnelle sur les hauts revenus de l'ordre, attention, accrochez-vous bien, de 2 à 4 euros par an, aurait pu permettre un retour à l'équilibre du régime des retraites. Or là, ce que nous dit Emmanuel Macron, ce que nous dit Madame Borne dans sa réforme, c'est aux travailleurs de payer les choix économiques de Monsieur Macron, à savoir de favoriser les plus riches et d'empêcher les plus pauvres. Est-ce que vous connaissez la différence d'espérance de vie entre les hommes, les 5% d'hommes les plus précaires et les 5% d'hommes les plus favorisés? Elle est de 13 ans. L'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre, la différence, elle est de 7 ans. C'est absolument colossal. C'est-à-dire que quelqu'un qui a envie, et on l'attend tous, je crois, à notre retraite pour pouvoir jouir du temps libéré, profiter de nos familles, de nos proches, de nos petits-enfants, si on en a, bref, de pouvoir profiter un petit peu de la vie, ben en fait, pour un certain nombre d'entre nous, nous n'aurons pas l'occasion de profiter de notre retraite parce que nous ne serons pas en état de le faire physiquement ou nous serons potentiellement déjà décédés. Et ça, c'est inacceptable, c'est injuste et c'est à cela que nous disons non.
Quelles seraient les conséquences de cette réforme des retraites pour les femmes, mais aussi pour les personnes qui ont une carrière hachée?
Ben, la conséquence, c'est de considérer qu'ils devront partir à la retraite beaucoup plus tard, même si, et je reconnais, le fait de mettre en place une pension minimum est plutôt une bonne chose et va dans le bon sens. La prise en compte des congés paternité et maternité est aussi une bonne chose, mais pour autant, là aussi, on fait peser, encore une fois, sur les plus précaires et les personnes qui ont les carrières les plus difficiles, le poids de ces choix politiques, et c'est absolument inacceptable. Et je crois que le front, par ailleurs, est unanime par rapport à ça, dans le sens où 8 Français sur 10 sont opposés à cette réforme des retraites. Tous les syndicats sont opposés à cette réforme des retraites. Et derrière, on voudrait nous expliquer que le président de la République entend les revendications sociales et entend s'inscrire dans une discussion. Mais quelle est la discussion quand vous avez 80% des Français qui sont opposés et l'intégralité des syndicats? Pourquoi vouloir passer en force? Quel est le message envoyé aux Françaises et aux Français, notamment dans un contexte où l'inflation est de l'ordre de 15% sur les matières premières et les denrées alimentaires? Et quand la plupart de nos concitoyens n'arrivent même pas, non pas à boucler leur fin de mois, mais pour un grand nombre d'entre eux à commencer le mois.
Dernière question, Lamia El-Haraj, vous êtes l'adjointe de la maire de Paris, Anne Hidalgo, en charge de l'accessibilité universelle et des personnes en situation de handicap. Quelles sont vos priorités?
Alors mes priorités, elles sont nombreuses dans le cadre de la feuille de route et de l'ambition politique que porte la maire de Paris. Tout d'abord, c'est de travailler sur la question de l'inclusion de l'ensemble de nos enfants à l'école. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Chaque enfant, quelles que soient ses conditions de départ dans la vie et quelle que soit sa situation de handicap ou non, doit pouvoir évoluer en milieu scolaire, entouré de camarades et accompagné de la bonne manière pour permettre ses apprentissages et son épanouissement. Ensuite, nous avons la question de l'accessibilité de la ville. Vous le voyez sans doute, à Paris, il y a énormément de travaux et d'aménagements qui sont en cours dans une volonté politique qui est celle de l'apaisement de l'espace public et de permettre au plus grand nombre de pouvoir évoluer dans cet espace public que nous cherchons à apaiser au maximum. Vous avez aussi les Jeux Olympiques et Paralympiques, où pour la première fois de notre histoire, nous allons accueillir les Jeux Paralympiques. C'est 9 millions de spectateurs qui seront présents, avec énormément de spectateurs en situation de handicap et d'athlètes paralympiques. Et nous nous devons d'avoir une ville 100% accessible, en tout cas au maximum, pour que chacun puisse y trouver sa place. Donc ce calendrier-là, il nous contraint aussi. Et là-dessus, je regrette, notamment sur la question, par exemple, des transports en commun, que du côté de la région Île-de-France et du côté du gouvernement, les uns et les autres n'assument pas leurs responsabilités, parce que le défi n'est pas uniquement parisien, il est national. On se doit d'accueillir tout un chacun, quelles que soient, je le rappelle, ses conditions physiques et psychiques dans de bonnes conditions, dans le cadre de ces Jeux, mais plus globalement, dans le cadre de notre conception du vivre ensemble.
Merci Lamia El-Haraj. Je rappelle que vous êtes adjointe de la maire de Paris en charge de l'accessibilité universelle et des personnes en situation de handicap et porte-parole du Parti Socialiste. Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.